Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. France Inter.
Radio Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
That's it, he's on Peter House.
France Inter, le 18-20.
La nuit a été longue et cette journée a été une longue gueule de bois pour les opposants turcs qui ont vraiment cru que leur candidat était à même de gagner les élections au premier tour, les présidentielles. Il y aura un deuxième tour, c'est déjà une première, mais les optimismes sont douchés. On verra avec notre invité ce que ça veut dire. C'est Pinar Selek qui est avec nous, réfugié en France depuis plus de 15 ans et toujours menacé par la justice turque. Le bruit du monde est à la frontière entre le Mexique et les États-Unis ce soir, où se précipitent les migrants depuis la levée du titre 42, la loi restrictive de la pandémie. Sauf que ceux qui veulent entrer, du coup, choisissent une route plus difficile et meurent parfois dans le désert, ce que veulent éviter certaines ONG. Vous en suivrez une avec nous. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Lejeune a trouvé une ambassade américaine au Liban, plus grande encore que la Maison Blanche. Forcément, ça fait beaucoup causer. Des places de cinéma à 2 euros pour les plus de 65 ans, ça se passe en Espagne. Et une grande chanteuse soudanaise donc qui meurt, victime collatérale des tirs près de Khartoum. À 18h50, c'est le choc des empires en Russie ce soir. Et cette question, mais à quel jeu joue Prigogine, le patron de Wagner? 18h55, c'est le monde d'après de Franck Madvon et l'autre élection de ce week-end en Thaïlande. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Pinar Selek.
Bonsoir, chère Fabienne Sintès.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivaine, vous êtes sociologue, vous êtes politologue, vous êtes militante des droits de l'homme. Vous travaillez à l'université Nice-Sophia Antipolis. Vous êtes réfugiée en France depuis 15 ans. On en parlera brièvement, poursuivie par la justice turque pour une affaire totalement délirante. J'imagine que vous avez peu dormi, Pinar Selek, pour suivre cette élection. Et dans quel état vous êtes au moment où on se parle ?
Alors, même si nous, les opposants en Turquie, nous sommes comme des fleurs qui poussent dans le béton, on ne s'habitue pas vraiment à ces mauvaises nouvelles. C'était une soirée très stressante, dans la confusion totale. Et durant la médiatisation des premiers résultats, il y avait une confusion, une bataille des chiffres, etc. Et à la fin, vous savez le résultat.
Et vous y avez cru ? Est-ce que vous y avez cru, Pinar Selek ? Est-ce que, comme beaucoup d'autres, et comme semblaient le dire les sondages, vous pensiez que cette fois, c'était la bonne ?
Vous savez, moi, je viens de finaliser mon dernier livre qui s'appelle « Chaudron militaire turc » qui va être publié aux éditions des Femmes bientôt, dans lequel j'analyse le mal enraciné dans le pays et j'explique pourquoi et on ne peut pas en guérir avec un peu de citron et de miel. Et malgré tout ce que j'ai dit, j'avais quand même un demi-espoir, disons. Et comme j'aime beaucoup Hannah Arendt qui parle, on peut déclencher des nouveaux processus, on peut créer des miracles, etc. J'ai cru un peu l'effervescence, on dit non, politique et démocratique en Turquie. Et j'avais une demi-espoir. Je ne suis pas désespérée. Mais tout de suite, j'ai réfléchi et pour analyser ces résultats.
Vous parlez d'un mal enraciné. Moi, j'ai le sentiment d'un pays qui a hésité et puis qui, au dernier moment, recule comme s'il n'était pas prêt. Est-ce qu'il y a en partie ça ?
Oui, il y a en partie ça. Je propose vraiment d'analyser ces résultats en soulevant qui a leur caractère multifactoriel et en prenant en compte quelques phénomènes importants. Il y avait un mécontentement, premièrement, mais il y a aussi, parce que le mécontentement ne suffit pas à une mobilisation, à un changement tout seul. Et parce qu'il y a aussi une destruction et reconstruction sociale du pays depuis 20 ans. Par exemple, islamisation de la société ou implantation sociale de ce mouvement politique en utilisant les opportunités du pouvoir. Par exemple, vous savez, le parti au pouvoir, donc je viens de lire les journaux, vérifier, le parti a 11 millions de membres. Vous imaginez? Et donc, être membre, ça veut dire le travail, le réseau, etc. En plus, la population qui est très appauvrie avec la crise économique est devenue très dépendante aux aides de l'État. Mmh. Et le gouvernement a baissé l'âge de la retraite quelques semaines avant. Et après le séisme, il a monopolisé les aides malgré sa défaite. Et les tigres anatoliennes, vous savez, les tigres anatoliennes, c'est des promoteurs immobiliers que le gouvernement s'appuie, on commençait à construire, il y avait beaucoup de promesses, etc.
Mais c'est
premièrement ça.
Pardon, et c'est ça qui est assez étonnant vu d'ici, Pinard Sélec. Effectivement, comme vous le dites, dépendant des aides de l'État, et très en colère à ce moment-là, notamment contre les promoteurs immobiliers. Mais c'est bien la raison pour laquelle ce séisme a été aussi dramatiquement meurtrier.
Et tout à fait.
Et donc, ce paradoxe-là semble assez fou, comme si, au fond, la Turquie se disait oui, mais on a quand même besoin de celui qui crie le plus fort, de celui qui est l'homme fort, de celui qui nous représentera comme ça. Et Kılıçdaroğlu, qui arrive comme un président normal, est-ce qu'il sera à la hauteur de la tâche? On a le sentiment que le message envoyé est aussi celui-là.
Oui, mais comme j'ai dit, il y a un travail qui est fait depuis longtemps. Et aussi, l'histoire politique très douloureuse de la Turquie est aussi l'histoire des compromissions collectives. Mmh. Et nous avons un répertoire politique façonné par le génocide des Arméniens et d'autres violences extrêmes qui se sont suivies, qui banalisent et popularisent les gouvernements autoritaires et nationalistes. Mmh. Et je pense qu'il y a toujours ce répertoire qu'on peut utiliser facilement. Et depuis 2016, je ne veux pas parler de ça, sous la conjugaison de multiples effets, le gouvernement en difficulté a servi tout de suite de carburant ce sombre répertoire nationaliste. Et le pays est entré dans une période très particulière de son histoire, qui est marquée par la dérégulation économique, juridique, sociale et militaire. Et dans ce contexte, je pense que les lougris, la mouvance en général, les lougris, des nationalistes, donc l'extrême droite turque, qui est en alliance avec le gouvernement Erdogan depuis 2016, est assez significatif. Parce que, je continue ou...
Allez-y, oui, pour finir là-dessus sur le nationalisme.
L'implication très importante, l'implication ouverte dans le crime organisé très très connu en Turquie, est très révélateur des interconnexions police, mafia, politique. Mais en même temps, ces organisations mafieuses sont devenues des acteurs économiques. Et ce mouvement a obtenu des positions clés dans l'administration, mais aussi dans des secteurs comme immobilier, transport, etc.
Les loups gris dont vous parliez, avec les loups blancs d'un côté, les loups noirs de l'autre, effectivement, en Turquie, avec ceux-là qui sont les loups gris du milieu. Mais ce que ça veut dire quand je vous entends, Pinard Sélec, c'est que c'est pas la peine de placer le moindre espoir dans le deuxième tour. Est-ce que ça veut dire qu'il risque d'y avoir de toute façon une grande démobilisation, que les gens n'iront pas? Là, on a quand même presque battu des records. 88% de participation, c'est énorme.
C'est énorme, oui. Mais imaginez, juste avant les élections, ce mouvement et le gouvernement a détruit les locaux des organisations politiques, surtout kurdes, organisé le lynchage des Kurdes de football, kurdes en déplacement. Ils ont tué un populaire musicien kurde dans les rues une semaine avant le scrutin. Donc, la campagne électorale était très injuste. Elle s'est préparée dans un climat de peur. Le parti kurde était en train de fermer et tous les députés et maires des Kurdes étaient en prison. Et donc, mais malgré cela, quand même, l'opposition a essayé de ne pas tomber dans le piège. Mais la propagande était énorme. Et donc, dans ce contexte, je ne sais pas. Et aussi, il y avait la répression et l'utilisation. Donc, il y avait une répression beaucoup sur les réseaux sociaux et les médias étaient au service du gouvernement. Mais et donc, les résultats nous donnent une tableau très pessimiste. Vous avez raison. Que l'écrasante majorité de la population turque est nationaliste. On le voit, est conservateur. Et nous voyons à quel point l'extrême droite est implantée dans le social. Mais aussi, il y a une chose très importante, juste avant le scrutin, les discours publics antiféministes et surtout anti-LGBTQ étaient très très importants. Oui. Donc c'est, ils sont révélateurs aussi des répressions à venir.
Pinard Sélec, pardonnez-moi, oui. les jeunes gens qu'on a entendus sur les antennes et qu'on a pu rencontrer, nous, en y allant au 18-20, disaient pour beaucoup, cette élection c'est le seuil, c'est notre dernier seuil, et si Erdogan reste, moi je pars, parce que 50 plus, ça va être
impossible. Il y a déjà plein de gens qui sont en train de partir. Depuis, avant les élections, il y a une immigration énorme de Turquie, des jeunes surtout. Et la victoire de l'opposition ne signifierait pas nécessairement que la Turquie prendrait une nouvelle direction, mais c'était une ouverture, une petite espoir. Et maintenant, il y a une fatigue et lassitude, c'est vrai. Et c'est vrai, mais moi je lis et je parle avec tous mes amis, ils disent non, on va continuer, deuxième tour, etc. Mmh. Je pense que c'est comme en Iran un peu, vous savez, cher Fabien Santès, les gens continuent là-bas, il y a plein de gens en prison, plein de gens qui continuent à faire quelque chose, mais c'est un contexte international de la montée de l'extrême droite. Et donc, c'est favorable aussi à tous les extrêmes droites. Je pense, même si il y a longtemps, on avait dit plus jamais ça, maintenant, nous avons besoin d'une lutte internationale qu'on doit vraiment être ensemble. Et on ne peut pas dire que c'est loin, mais non, c'est pas loin. Tout est interdépendant et nous devons agir ensemble.
Et c'est vrai que l'un des enjeux, c'était, et c'est un peu l'enjeu que nous, en Europe, on voyait depuis notre perchoir, était de dire la démocratie contre l'autocratie. Et pour l'instant, et en tout cas à ce stade, le vainqueur, c'est l'autocratie. Il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui disaient aussi, Pinard Sélec, que si cette fois-ci, ça ne passe pas, le ras-le-bol est tel qu'il peut y avoir un autre Gezi, qu'il peut y avoir des heurts. Mais ce qu'on sent surtout, c'est une terrible fatigue, fatiguée de même se battre aussi, et y compris là, après ce moment où les Turcs y ont cru. Vous y croyez, vous, à une recrudescence de la violence? Est-ce que vous voyez plutôt un pays déjà épuisé qui s'épuise encore plus?
Je pense qu'il y aura, encore il y a encore un épuisement, et donc on va faire tout. Peut-être il y a encore une petite espoir, même si les conditions sont plus mauvaises, mais deuxième tour peut-être peut ouvrir quelque chose. Mm-hmm. Mais quand même, il y a à peu près 60 députés du parti kurde. Il y a quand même quelque chose qui va venir. Et ce pays a toujours a su continuer. Mais moi, je suis plus pessimiste qu'il y a quelques jours. Voilà.
C'est vrai, ouais. J'entends bien, Pinard Sélec, que le sujet, bien sûr, c'est pas vous, mais vous faites partie de ces gens qui sont contraints à l'exil. On va rappeler que vous avez été accusé d'un attentat qui n'a même pas existé. Vous avez été acquitté 4 fois. Et pourtant, vous êtes toujours à nouveau ennuyé par la justice. Vous serez à nouveau jugé au mois de septembre. Exactement, le 29 septembre. Alors qu'évidemment, vous êtes heureusement ici à Nice. On peut imaginer l'espoir que ça a été pour tous les dissidents, pour tous les contraints à l'exil, pour ceux qui sont en prison. On pense à Osman Kavala, condamné à perpétuité pour son action pendant Gezi. Enfin, tout ça, et pour toute cette partie-là de la Turquie, ça a quand même dû être une douche froide absolument terrible de se dire, bah non, il n'y aura pas de libération des prisonniers politiques, bah non, il n'y aura pas de retour en Turquie pour les gens comme vous.
Et ça ne sera pas tout de suite, c'est sûr, mais nous avons besoin de plus en plus de la solidarité internationale et de la visibilité internationale, et aussi que les pays européens ne cèdent pas à cause de la question des réfugiés, à cause de la question d'Ukraine et des intérêts géostratégiques. Vraiment, c'est une période de lutter ensemble contre l'autoritarisme et l'extrême droite dans le monde entier. Et il faut qu'on soit vraiment solidaires.
Est-ce que... Moi, allez-y, pardon.
Je crois quand même encore au miracle.
Ouais. Ben on croise les doigts pour vous, Pinard Sélec. Est-ce que vous diriez, est-ce que vous craignez d'avoir affaire à un Recep Tayyip Erdogan plus autocrate encore qu'il ne l'est dans ce nouveau mandat, avec les mains encore plus libres au fond, puisqu'il a 5 ans devant lui? Est-ce que vous avez cette crainte ou pas?
Oui, parce que le Parti nationaliste qui est allié au gouvernement donc de la mouvance Le Gris, et donc ils ont tout de suite fait des déclarations assez brutales et ils ont augmenté leur discours. Maintenant, ils commencent à viser pas seulement les Kurdes, les Arméniens, les opposants, mais les LGBTIQ, les féministes, etc. Donc ça va devenir un peu plus... Et déjà, il y a plein de prisonniers, beaucoup, beaucoup de prisonniers, et donc ça va être ou augmenté, ou ils vont espérer que la lassitude continue. Mais moi, je sais que dans ce pays, dans les périodes plus sombres, il y a toujours des fleurs qui poussent. Donc on va essayer de faire ça, mais on ne peut pas changer les choses toutes seules.
Et les fleurs de béton, vraiment... comme vous dites. Alors après, on peut regarder aussi, Pinar Selek, le verre à moitié plein. Et le verre à moitié plein dit que oui, on est à 49,5 pour Erdogan, à 44,9 pour Kılıçdaroğlu, mais qu'il perd des voix. Alors vous le disiez, effectivement, il est de plus en plus à coquiner avec l'opposition d'extrême droite et avec son allié d'extrême droite. Il a encore moins le choix. Mais on peut dire quand même que son résultat se tasse. Est-ce que c'est une manière de voir la bouteille à moitié pleine ?
Tout à fait, tout à fait. Et aussi, cette répression vient de la peur. Oui. De la peur de Gezi, de la peur de la mobilisation. Et en même temps, il y a eu une chose très importante, malgré ce contexte, parce qu'il a fait tout pour empêcher l'alliance des Kémalistes et des Kurdes. Mm-hmm. Mais quand même, on a créé aussi par le bas une culture démocratique de discussion, de trouver un chemin, etc. Et ça ne va pas aller, ça ne va pas être jeté par la fenêtre. Je crois que ça va créer quelque chose. Rien n'est inutile, je pense. Tout peut se transformer.
Rien n'est inutile, Pinar Selek. Ce sera votre phrase de conclusion. Il y a un deuxième tour, hein, et on le suivra évidemment de très très près. Ça se passe le 28 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci vraiment.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Vous suivrez avec nous une ONG qui va chercher les migrants, parfois leurs cadavres, quand ils se perdent dans le désert. Et puis la troupe habituelle qui vous accompagne jusqu'à 19h. Sébastien Logeni, sous les radars.
Au Liban, la nouvelle ambassade américaine fait polémique, grande comme 21 terrains de football alors que le pays s'enfonce dans la misère.
Le choc des empires et Sylvain Tronchet qui est en Russie. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Fabienne. Yevgeny Prigojine aurait tenté de passer un marché avec les services secrets ukrainiens. C'est le Washington Post qui l'affirme. Le chef de Wagner dément en des termes peu amènes comme d'habitude, mais c'est un problème de plus pour lui alors que sa position militaire et politique se fragilise.
Le monde d'après, c'est vous Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne. C'était l'autre scrutin de ce dimanche, élection hier en Thaïlande. L'opposition l'emporte et espère faire chuter les généraux au pouvoir.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par la Jamaïque et Ina de Yard, c'est le grand retour du collectif jamaïcain avec un nouvel album qui sortira au mois de juin, ça s'appelle Down the Street sur France Inter.
No time to linger, no, I've got no time to waste. I've got no time to linger, girl, I'm in a haze. Walking down the street, please let me go. 'Cause I've got
me walking down the street. Please let me go. Cause I've got no time to linger, no. I've got no time to waste. I've got no time to linger. I'm in a haze. Yeah. Yeah.
Ooh. Oh, de ce lado del cerro.
Le bruit du monde ce soir est à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, où des milliers de migrants venus d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud se rassemblent devant des portes closes évidemment et des barrières, en espérant que la fin du fameux titre 42, une mesure qui facilitait les expulsions expéditives pendant la pandémie, que cette fin donc leur serait favorable. Sauf que le gouvernement Biden, qui se sent débordé, a annoncé de nouvelles mesures restrictives envers les demandeurs d'asile. La crainte, c'est un vrai chaos à la frontière, et qui dit chaos, dit mort, parce que les migrants courent des risques plus élevés pour traverser hors des sentiers battus. Ils meurent de soif, ils meurent d'épuisement une fois arrivés dans le désert d'Arizona. C'est évidemment ce que veulent éviter les ONG qui parfois ne cherchent justement que des morts. Et le reste, c'est Emmanuel Sils qui raconte.
Quelques taches fluorescentes se détachent dans le paysage. Les t-shirts des volontaires se repèrent à distance pour permettre aux migrants en détresse de les distinguer dans la monotonie chromatique du désert de l'Arizona. Talkie-walkie et bouteilles d'eau en main, guêtres aux jambes pour se prémunir des piqûres de serpents, ceux qui se font appeler les aumôniers du désert s'apprêtent à explorer une vaste étendue aride proche de Tucson. À la tête de ces volontaires, Oscar Andrade, un Mexicain qui vit aux États-Unis depuis 10 ans. Il explique au groupe la mission du jour. Suivre le lit asséché d'un ruisseau à la recherche d'un migrant mexicain de 43 ans.
Cet homme a été abandonné le 20 avril. À vrai dire, il y a très peu de chances qu'il soit encore en vie. Surtout qu'ils l'ont laissé sans eau et en très mauvaises conditions. En réalité, on va rechercher son corps.
9 jours se sont écoulés depuis que l'homme a envoyé ses coordonnées GPS à sa famille, qui a alerté les aumôniers du désert. Parmi les volontaires, Oriana Bolivar, une Vénézuélienne qui vit à Tucson et qui a elle-même traversé 9 pays à pied pour atteindre les États-Unis.
Ces migrants perdus tombent dans l'oubli. Seules leurs familles se souviennent d'eux et les cherchent encore. Je me mets à leur place, j'imagine leur désespoir. Ils veulent savoir ce qui est arrivé à leurs proches. Et c'est pour cette raison que nous partons à leur recherche tous les week-ends, pour que leurs familles puissent retrouver la paix.
Depuis le début de l'année, les aumôniers du désert ont réalisé 30 d'expéditions et retrouvé 6 corps. Les mois d'été s'annoncent mortels. Oscar Andrade constate que malgré les politiques dissuasives, de plus en plus de migrants se lancent dans cette traversée au péril de leur vie.
Des migrants ont commencé à affluer du Venezuela, de Colombie, du Brésil. Parce que le président Biden avait annoncé que des visas seraient octroyés. Ils sont arrivés en masse. Et puis aussi du Honduras, du Guatemala, de Haïti. Il y a eu une forte augmentation. Et du Mexique aussi. Il y a beaucoup de gens qui fuient le crime organisé.
Le groupe se faufile entre les ronces et les saguaros, les cactus géants du désert de Sonora. Sous 35 degrés, la recherche se poursuit durant plus de 7 heures, guidée par quelques indices. Des vêtements abandonnés, signe qu'il s'agit d'un lieu de passage, et des vautours qui décrivent des cercles sur le flanc de la colline. Les volontaires ratissent la zone en vain.
Quand j'étais au sommet de la colline, j'ai regardé l'étendue en bas et j'ai pensé, combien de corps y a-t-il dispersés dans cet endroit ?
À la morgue du comté de Pima, à Tucson, le docteur Gregory Hess, médecin légiste en chef, montre les objets retrouvés près des migrants morts. Des téléphones, des photos, des images pieuses, parfois des papiers d'identité. Maigres reliques abîmées par le désert qui pourraient aider à identifier leurs propriétaires. Une tâche complexe, la morgue reçoit près de 200 corps de migrants par an, dont un grand nombre réduit à l'état de squelette.
Ici, dans ce camion, nous conservons les ossements de 550 personnes, tous des corps non identifiés, retrouvés depuis 2018.
Les ossements sont entreposés dans un camion, faute de place dans le bâtiment. Parfois, les légistes travaillent avec très peu d'éléments, presque rien.
Il est rare qu'un squelette soit retrouvé en entier. Voici un exemple. Les os sont dispersés par les animaux, les oiseaux ou les intempéries. Et ça, c'est tout ce qu'on a retrouvé d'une personne. Un humérus, l'os du bras. On a prélevé l'ADN, mais si tout ce qu'on a, c'est un seul os, comment savoir qui c'est ? Aucune idée. Le seul moyen de le découvrir, c'est via l'ADN. Et la probabilité qu'il apparaisse quelque part dans une base de données est très faible.
Mais les légistes de Tucson se sont illustrés par leur ténacité, alors que dans d'autres comtés frontaliers, les migrants morts n'ont jamais été considérés comme une priorité. Ici, ils sont parvenus à identifier 65% des 3700 corps retrouvés dans le désert ces 20 dernières années. Grégories montre une carte de la région. Une multitude de points rouges marque l'emplacement de tous les corps découverts.
Ce sont seulement les personnes qui ont été retrouvées, mais bien entendu, il y a plus de morts. De toute l'étendue de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, on a seulement des informations sur cette région-ci. Il y a une forme de vacuité triste dans tout cela. On pourrait croire qu'on sait combien de migrants sont morts, mais en réalité, on ne le sait pas.
On ne sait pas combien ils sont, mais on sait qu'ils sont toujours plus nombreux. Suivant la tendance observée l'an dernier, les organisations de défense des droits de l'homme prédisent une augmentation des morts tout le long de la frontière.
Emmanuel Stills avec les ONG dans le désert. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logeni. Et nous sommes dans les rues de Beyrouth pour commencer, Sébastien, où la nouvelle ambassade américaine provoque une vraie polémique.
Oui, c'est la photo d'un bâtiment gigantesque qui fait controverse depuis hier sur Twitter. On y voit l'avancée des travaux d'un projet lancé en 2015. La nouvelle ambassade américaine de Beyrouth, située à 8 km du centre-ville, au même endroit que l'actuel bâtiment, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Jugez plutôt 17 hectares, c'est-à-dire deux fois le terrain de la Maison-Blanche à Washington, l'équivalent de 21 terrains de football, une ville à part entière, un complexe ultra-moderne d'un coût d'$1 milliard, équipé d'une zone de loisirs avec piscine et avec vue sur tout Beyrouth, le tout évidemment hyper sécurisé.
On April 18th, 1983, 63 people.
On entend ici le secrétaire d'État américain Anthony Blinken commémorer les 40 ans de l'attentat à la bombe de 1983 du Hezbollah contre l'ambassade américaine de l'époque, 63 morts dont 52 Libanais, la preuve d'une histoire très tourmentée entre Washington et Beyrouth. Aujourd'hui, ce bâtiment flambant neuf sous très haute surveillance fait grincer des dents les Libanais. Pourquoi un tel gigantisme alors que le Liban n'est pas plus grand que le Connecticut et que très peu d'Américains y viennent en vacances? Une extravagance qui choque aussi alors que le pays traverse une terrible crise économique. 80% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté. Ils n'auront qu'à manger du béton américain, ironise un internaute.
En Espagne, la place de ciné pour les seniors, bientôt à 2 euros.
Mesure spectaculaire annoncée en effet hier par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez en déplacement dans le cadre des futures élections régionales.
Este martes, vamos a dar un paso más en esa dirección.
Pedro Sanchez qui explique que la participation à la vie culturelle est la garantie d'une vieillesse saine, pleine et heureuse. Le cinéma, dit-il, peut et doit faire partie d'un vieillissement actif et en bonne santé. Concrètement, la décision sera prise demain lors du Conseil des ministres. Les plus de 65 ans pourront donc aller au cinéma tous les mardis et ne payer que 2 euros, un plan qui concernera près de 10 millions d'Espagnols. C'est la suite d'un vaste plan de promotion de la culture lancé l'an dernier, où déjà le gouvernement espagnol avait introduit un pass culture jeune, équivalent à celui que l'on connaît en France. Là, c'est 400 euros pour les 18-25 ans, au lieu des 500 en France, pour acheter des livres ou des disques. Cette annonce du ticket de ciné à 2 euros pour les seniors n'est pas exempte, évidemment, d'arrière-pensée politique. Les élections régionales auront lieu le 28 mai prochain, avant les législatives de décembre, et le Parti Socialiste est aujourd'hui distancé dans les sondages par le Parti Conservateur.
Et puis Sébastien, c'était l'une des chanteuses les plus prometteuses du Soudan. Shannon Gardoud est morte hier dans les combats.
Shannon Gardoud publiait régulièrement des vidéos sur Facebook depuis sa maison en banlieue de Khartoum. « Nous sommes piégés depuis 25 jours », écrit-elle. « Nous avons faim, nous vivons dans une peur énorme. Nous risquons de mourir dans des échanges de tirs », racontait cette femme et cette mère de famille de 37 ans dans son dernier message. Hier, elle a donc été fauchée par des tirs croisés. Une disparition qui provoque beaucoup d'émotions dans le pays, car Shannon Gardoud était une chanteuse très populaire. insulaire, une poétesse, mais aussi une chercheuse. Elle chantait la paix et dénonçait la guerre depuis des semaines, tuée dans les combats, comme d'autres personnalités publiques, comme la première actrice professionnelle soudanaise âgée de 80 ans ou encore cet ancien footballeur très populaire de 72 ans. Les hommages sont nombreux depuis hier sur les réseaux sociaux où ces chansons sont reprises en boucle. La chanteuse Saden Gardoud, qui fait partie des 750 morts officiels au Soudan depuis un mois, depuis le début des affrontements entre les généraux Al-Burhan et Hemeti. Près d'un million de personnes sont ce soir déplacées ou réfugiées au Soudan.
Sous les radars et Sébastien Legénie tous les soirs dans Un jour dans le monde. Sébastien, merci beaucoup. Vous revenez demain, vous repartez avec un peu de mon enfance et de mon adolescence, un peu de la vôtre aussi, j'imagine. Aussi de
Dites-moi
Cure.
Bah oui.
Boys Don't Cry. Trop bien. Cure et Boys Don't Cry sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le choc des empires, comme chaque lundi, il est en Russie ce soir.
France Inter, Un jour dans le monde.
Le choc des empires ou comment l'Amérique, la Chine, la Russie se partagent le monde et son influence. Nous sommes donc avec vous, Sylvain Tronchet, à Moscou ce soir. Et cette position d'Evgeny Prigojine qui semble de plus en plus mystérieuse et controversée. Sylvain, le chef du groupe Wagner dont les mercenaires se battent à Bakhmout, semble avoir de plus en plus d'ennemis. Il se retrouve même accusé d'avoir tenté de trahir son propre pays. Jusqu'où cela va-t-il bien pouvoir aller ?
Oui, effectivement, c'est la question après les révélations du Washington Post qui raconte cette histoire sur la base de documents confidentiels des services secrets américains qui ont fuité sur la plateforme Discord. Fin janvier, alors que les mercenaires de Wagner tombaient par centaines à Bakhmout pour conquérir quelques dizaines de mètres de terrain, Yevgeny Prigojine se serait rapproché des services secrets ukrainiens et leur aurait proposé un marché. Vous retirez vos troupes de Bakhmout et en échange, je vous donne des positions de l'armée russe que vous pourrez attaquer aisément. D'après le Post, les Ukrainiens auraient refusé, ne faisant pas confiance au chef de Wagner, mais le journal affirme que des officiels ukrainiens de haut rang ont bien confirmé que ces contacts avaient eu lieu et qu'il y a donc bien un canal de discussion entre Prigojine et les services secrets ukrainiens. Alors, interrogé aujourd'hui, Prigojine a jugé tout cela risible, estimant que de telles attaques devaient provenir de son propre camp, de membres de l'élite russe qui s'efforce, dit-il, de lui déverser autant de merde qu'ils le peuvent sur la tête. Ça, c'est du Prigojine dans le texte, il n'y a aucun doute.
Mais alors, est-ce que ces accusations sont crédibles, Sylvain ?
Alors, c'est très difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que depuis des semaines, Yevgeny Prigojine a une capacité industriel à se fabriquer des ennemis dans son propre camp. Il passe son temps à insulter l'état-major, à mettre directement le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, en cause, taxé d'incompétence. Et il ne se passe quasiment pas une journée sans qu'il défouraille sans sommation, aujourd'hui encore. Écoutez ce qu'il a répondu à Viktor Soboliev. C'est un député communiste de la Douma, ancien général de l'armée russe, qui a eu le malheur de rappeler que Wagner est une armée illégale, même en Russie, et que ceux qui s'y engagent théoriquement risquent la prison. Écoutez la réponse de Prigojine.
Je voudrais dire à un homme qui déshonore le mot général à Soboliev, idiot en carton à grande bouche, prépare-toi et va au front. Montre ce que tu sais faire, bavard sans cervelle.
Voilà, idiot en carton à grande bouche.
C'est noté
il
aussi.
S'est probablement fait un ami et des gens que l'attitude et la position de Prigojine dans les hautes sphères russes indisposent, il n'en manque pas.
Mais alors, il tient que par Vladimir Poutine, dont il est proche. Est-ce que c'est ce qui reste ou pas?
Eh bien, dont on nous dit qu'il est proche, parce qu'au fond, personne n'a jamais entendu Vladimir Poutine récemment, en tout cas, dire quoi que ce soit sur Yevgeny Prigojine. Il est possible, évidemment, qu'il soit en quelque sorte protégé par le Kremlin, sinon sa position serait déjà intenable. Et si Yevgeny Prigojine critique l'armée, le FSB, les oligarques, jamais il ne s'en prend à Vladimir Poutine. Mais la semaine dernière, dans une de ses diatribes autofilmées, le chef de Wagner a eu des mots sur un certain grand-père qui ont troublé pas mal de monde. Écoutez-le.
Au lieu de nous donner des munitions, il les accumule dans des hangars. Pour faire quoi? Personne ne le sait. Et au lieu d'utiliser des obus pour tuer des ennemis et sauver la vie de nos soldats sont tués pendant qu'un grand-père heureux pense que c'est bon pour lui. Mais que doit faire le pays, nos enfants, nos petits-enfants, le futur de la Russie? Comment gagner la guerre si, comme je le suppose, le grand-père est un connard fini?
Voilà, et donc le grand-père c'est qui alors, Sylvain?
Eh bien, c'est toute la question, hein, parce que l'un des surnoms de Vladimir Poutine chez ceux qui l'apprécient modérément, c'est Papy Bunker. Et l'identité du grand-père agite une bonne partie des commentateurs russes ces derniers jours. Prigojine, alors lui, a vaguement répondu en disant qu'il pourrait s'agir de Valéry Gerasimov, le chef d'état-major de l'armée, hein, tout de même, mais personne n'en est vraiment convaincu. Le média russe en exil Medusa affirme même qu'au Kremlin, on commence à s'agacer des libertés prises par le chef de Wagner. Il faut bien comprendre que Yevgeny Prigojine a deux utilités. L'une, militaire, il fait avec Wagner une partie du travail que l'armée ne peut ou ne veut pas faire. L'autre, politique, il agrège la frange la plus nationaliste de l'opinion, tout en restant fidèle à Vladimir Poutine. Or, côté militaire, les choses n'avancent plus à Bakhmout, il semble même que les Ukrainiens commencent à contre-attaquer. Alors si en plus, côté politique, on vient à en douter de sa fidélité, là, sa position deviendra vraiment périlleuse.
Sylvain Tronchet, avec nous depuis Moscou, j'attends de savoir comment je vais pouvoir replacer l'idiot en carton à grande bouche. Sylvain, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup, allez, à bientôt.
Fabienne Saint-Hès, le 18-20.
Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, on a beaucoup parlé évidemment de la Turquie, mais un autre pays voté hier dimanche, et ce scrutin mérite qu'on s'y arrête vraiment, c'est la Thaïlande. L'opposition, là pour le coup, a remporté les législatives. Un parti pro-démocratie qui a créé la surprise, c'est même une claque pour le pouvoir militaire.
Oui, il faut d'abord présenter les acteurs des élections. On connaît généralement assez mal, Fabienne, la vie politique thaïlandaise. On commence par l'homme qui a créé la surprise, Pita Limjaroenrat. Pita, comme on dit en Thaïlande, on s'appelle souvent par son prénom, dirige un parti progressiste, Move Forward, aller de l'avant en anglais. Ce mouvement remporte largement le scrutin, 150 députés environ sur 500. Son but est de limiter le pouvoir des militaires et celui de la monarchie, on va y revenir. Pita est diplômé de Harvard, il veut ouvrir l'économie de son pays, il l'a dit aujourd'hui, je suis le prochain Premier ministre. Deuxième acteur, le parti Peu Thaï, emmené par la fille de l'ancien Premier ministre Thaksin, figure populiste et controversée de la vie politique thaïlandaise. Thaksin vit en exil, il a été renversé par un coup d'État en 2006. Le Peu Thaï était donné vainqueur, mais il finit donc deuxième du scrutin. Ces deux partis et leurs alliés comptent plus de 300 députés, ils espèrent faire chuter les militaires au pouvoir. Et c'est là qu'entre en scène le troisième acteur des élections. L'armée, le Premier ministre aujourd'hui s'appelle Prayut. C'est un ancien commandant en chef de l'armée. C'est lui qui a mené le coup d'État de 2014. Son parti subit un énorme camouflet aux élections, cinquième place seulement.
Alors, victoire des pro-démocrates donc, Franck, mais l'armée reste quand même incontournable en Thaïlande.
Oui, on parle d'un pays qui a connu 12 coups d'État par l'armée depuis la fin de la monarchie absolue en 1932. Les militaires mettent leur nez dans les affaires économiques, ils contrôlent une grande partie des institutions. Ils nomment par exemple les 250 membres du Sénat. L'armée diabolise l'opposition, c'est ce qu'a fait le Premier ministre Prayut ces dernières années. Le pouvoir avait d'ailleurs dissous un parti qui n'est autre que la première version de Move Forward, la formation qui a remporté les élections. Alors que souhaite ce parti vainqueur hier? On le disait, il entend démilitariser la Thaïlande. Ras-le-bol des généraux, l'armée de retour dans les casernes. Cette promesse séduit les élites urbaines. Move Forward a fait un carton à Bangkok, la capitale. Le parti propose notamment de mettre fin à la conscription obligatoire. Aujourd'hui en Thaïlande, sauf dérogation, il faut le savoir, on est littéralement tiré au sort pour faire 2 ans de service militaire. Move Forward veut aussi imposer un délai de 7 ans avant que les militaires puissent rejoindre la vie politique.
Et Franck, l'opposition s'attaque aussi à la monarchie.
Ouais, le poids de la monarchie, autre spécificité thaïlandaise. Le parti vainqueur hier veut réformer la loi sur le crime de lèse-majesté. Un texte qui semble d'un autre temps. Critiquer le roi en Thaïlande est passible de prison. Le pouvoir issu de l'armée a souvent eu recours à ce texte pour condamner des opposants. Mais la monarchie est de moins en moins populaire, surtout depuis la mort du roi Bhumipol en 2016. Son successeur Maha Vajiralongkorn, le roi Rama X, a une triste réputation. Il était connu avant de monter sur le trône pour son train de vie luxueux, sa vie dissolue. L'exubérant monarque n'a pas corrigé son image. Il a par exemple passé le confinement avec un harem de 20 concubines en Bavière. Pour rappel, il avait quelques années plus tôt élevé son caniche au rang de maréchal de la force aérienne.
Formidable. Donc c'est l'heure du changement en Thaïlande?
Eh bien rien n'est certain. Dans ce pays dont la constitution est fragile, où les jeux d'alliance sont d'une grande complexité, les militaires, on l'a dit, contrôlent encore le Sénat. Or, les sénateurs nomment eux aussi le Premier ministre avec les députés. Les deux grands partis d'opposition doivent donc s'allier et trouver d'autres partenaires à l'Assemblée pour faire tomber les généraux. Par ailleurs, Pita, le chef de la formation victorieuse, est accusé d'avoir violé les règles électorales en ne déclarant pas des actions léguées par son père. Il n'est pas à l'abri d'une disqualification. Mais quel que soit le dénouement, 2 tabous sont tombés en Thaïlande, le roi et l'armée. Le débat est désormais public sur ces 2 sujets. La couronne et les casernes ne sont plus des institutions inattaquables.
Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, merci beaucoup. Vous revenez demain. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne, c'est juste après le journal de 19h d'Hélène Philly. Merci de passer la soirée avec nous. À tout de suite.